Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Hugh Coltmann.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions avant votre concert de ce soir à Jazz en Touraine. Vous venez de sortir de votre balance, je crois.
Ils sont en train de le faire en ce moment, ouais.
D'une certaine façon, ce concert ce soir, c'est un peu une répétition générale pour votre tournée. Là, vous commencez une tournée importante.
La tournée, on est un peu au milieu. Ça doit faire 7-8 mois qu'on est en tournée avec ce projet et ça continue encore pendant quelques mois, donc c'est chouette. C'est chouette de retrouver tous les amis après les vacances, quoi.
Mais je crois qu'il y a un highlight, on dit ça, avec le concert la Philharmonie de Paris.
Ouais, ça c'est en fait ça c'est le 9 octobre qui arrive. Et par contre, ça c'est un projet différent. C'est un projet c'est une commande de Jazz à la Villette autour de Great American Songbook.
Oui.
Et comme je suis grand fan de vieux Nouvelle-Orléans et de tout ce qui est Second Line et tout ça, je voulais faire ces chansons de façon un peu comme marching band de Nouvelle-Orléanais, donc il n'y a pas de piano, c'est guitare et que des soufflants.
Ça n'a rien à voir avec votre disque.
C'est rien à voir.
Et ça sera rien à voir avec le concert de ce soir.
Non, c'est des chansons différentes, à part la batterie, c'est une équipe différente, donc.
En effet. Et ce soir, vous allez nous chanter surtout les chansons de Nat King Cole.
Ouais, c'est les chansons autour du disque que j'avais fait autour de Nat King Cole, ouais.
Alors, je me suis demandé, justement, vous avez... il y a des grands chanteurs. Hein, pourquoi plutôt Nat King Cole que Frank Sinatra ou Tony Bennett ou Chet Baker?
Tout d'abord, pas que chanteur, très, très, très bon pianiste. D'ailleurs, il avait commencé son carrière en tant que pianiste. Il avait un certain succès avec le trio avant qu'il chantait même. Et puis, il commençait à chanter et ça se trouvait qu'il avait une voix fabuleuse. Et donc, du coup, ça a encore agrandi son succès. Mais moi, c'était une histoire personnelle autour de cette musique qui me tournait un peu dans la maison quand j'étais gamin. C'était un des artistes qu'écoutait assez souvent ma mère. Et j'ai fait deux disques précédents de mes compositions, on va dire un peu plutôt pop. Et puis j'avais la chance de tourner avec Eric Lenini, et quand cette tournée-là était finie, j'avais envie de continuer dans cet élan de cette musique qui permet beaucoup de liberté sur scène. Oui. C'est-à-dire les chansons, même si la chanson reste la même, les harmoniques que jouent les musiciens en même temps, et quand on peut partir sur certaines plages plus lents ou plus courts, ça change tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié, quoi. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce que je fais? Est-ce que j'écris des chansons moi? Et puis après, je me suis revenu sur mon enfance, quoi.
Oui.
Qui était la musique que j'écoutais quand j'étais enfant, donc Nat King Cole en faisait partie. Donc du coup, j'ai creusé le sillon de Nat King Cole, j'ai découvert beaucoup par rapport au monsieur et par rapport à sa vie et par rapport à ce qui vivait en tant que noir américain dans les années 40-50. Et donc du coup, c'était à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, j'ai peut-être un truc à faire avec cette musique, quoi.
Et là, vous avez choisi surtout à part Mona Lisa ou Nature Boy, qui sont des très grands succès de Nat King Cole, vous avez choisi des thèmes qui sont plutôt moins connus. Moi, j'avais personnellement beaucoup apprécié I Can't Be Bothered.
Ouais, c'est une chanson de Louis Jordan à la base. Et c'est une super chanson. En fait, ce que j'ai essayé de chercher, c'était vraiment, à la base, l'idée était vraiment d'essayer de voir une autre façon, un autre visage de Nat King Cole qui n'était jamais vu, c'est-à-dire, encore une fois, le noir américain des années 40-50 en face de ségrégation, le racisme, et comment le persona professionnel était toujours souriant, professionnel. À l'époque, les musiciens faisaient du entertainment, ils faisaient du divertissement, ils n'avaient pas leurs mots dans la politique. Ouais. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, cet bonhomme qui était toujours souriant, toujours très très propre sur lui, qu'est-ce qui se passait derrière sa tête quand il est en train de chanter une chanson comme Smile, par exemple, ou d'autres chansons. Donc j'ai essayé de chercher des chansons dont la plupart j'ai cherché des paroles que j'aurais pu essayer d'interpréter autrement, et aussi les arrangements sont plus épineux quelque part et plus Je voulais essayer de créer un malaise dans les chansons où il n'y en avait pas à la base. Les chansons comme Smile, les arrangements, ils sont sublimes, ils sont fabuleux, mais ils sont très mielleux, quoi. Donc je voulais essayer de faire quelque chose de plus brut avec des chansons. Donc j'ai essayé de choisir les chansons et à partir du texte et à partir de la chanson où j'aurais pu peut-être véhiculer un autre sentiment, quoi.
Mais en même temps, vous disiez aussi que vous étiez aperçu, une fois le disque terminé, que c'était en fait quelque chose que vous adressiez à votre mère.
Bah, c'était quand on avait fait la dernière chanson du disque, qui s'appelle Morning Star. C'est là où je me suis rendu compte, en fait, que le discours et l'idée que j'avais qui m'a ramené finalement à faire ce disque, c'est-à-dire ces faces peut-être cachées de Nat King Cole, c'était une bonne idée pour créer un disque ou avoir un propos pour un disque, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est en chantant cette chanson, qui est une chanson qui parle de l'amour d'un mère pour son enfant, c'était plutôt ce que j'ai perdu ma mère assez jeune. Donc, du coup, je me suis dit, non, en fait, c'est la réalité de la chose, c'est que j'aurais pas connu Nat King Cole sans ma mère. Donc, c'est plutôt un hommage à ma mère et tout l'insistance qu'elle a eue avec moi et mon frère de faire de la musique, de faire de la danse, etc. etc., etc. Donc oui, c'était devenu un hommage à ma mère, mais ça l'était toujours, je crois.
Si on abandonne un peu le disque et qu'on revient beaucoup en arrière, votre carrière, en fait, elle a commencé avec un groupe de blues rock intitulé The Hoax. J'ai cherché dans le dictionnaire, ça veut dire quoi, The Hoax?
Bah, ça veut dire un peu le canular. Nous on trouvait ça assez marrant parce que surtout moi et un des guitaristes, nos influences c'était vraiment les vieux blues de Willie Dixon, de Doug Taylor, de B.B. King, mais vraiment les trucs tôt de B.B. King. D'accord. Où il chantait extrêmement haut et toutes ces choses là donc je trouvais ça drôle qu'on était cinq blancs venus d'un tout petit village dans le sud-ouest d'Angleterre qui piochaient beaucoup plus leurs influences de l'Amérique que de blues en Angleterre, c'est-à-dire John Mayall, Blues Breakers et toutes ces choses-là. On était beaucoup plus influencés, en tout cas moi personnellement, par ces personnes dont je vous ai parlé, Sister Rosetta Thorpe aussi, les gens comme ça, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a fait abandonner? Parce que vous avez eu du succès, hein. Vous avez vu un millier de concerts et vers le jazz, comment est-ce que vous...
J'ai fini ce groupe-là. En tout cas, ce groupe-là, c'était dur. Hein. On avait 8 ans en tournée. À un moment, 8 ans de tournée dans un bus de 8 mètres carrés avec 5 mecs. Ça commence à se friter, quoi. Donc, il y a un moment où on a quitté le groupe. Moi, j'ai déménagé en France. J'ai fait plein de boulot alimentaire afin de me concentrer sur la composition. Et c'était ce que j'avais en tête vraiment à l'époque. Je voulais composer, parce que je ne composais pas beaucoup avec The Hoax. Donc du coup, j'ai fait beaucoup j'ai joué dans le métro beaucoup, j'ai joué dans les open mic, comme on appelle ça en Angleterre. C'est les soirées où chacun vient avec sa guitare et joue une ou deux chansons devant un public, afin de me construire une confiance là-dessus. Et puis après, j'ai créé un album. J'ai sorti un album en 2008, un album de mes compositions, et également en 2012. Et puis après...
Et vous avez rencontré Eric Lindini.
Ouais, ça c'était une jolie rencontre.
C'était décisif dans l'orientation de votre carrière?
C'était décisif dans le sens où j'avais toujours écouté pas mal de jazz, mais j'avais vraiment eu l'occasion de le chanter, quoi. Là où je viens, c'était et ce l'est toujours dans la musique live très basique blues ou blues rock. Donc du coup, qui me fasse confiance, de que je reprenne la main d'une très très bonne amie à moi, une super chanteuse, Crystal Warren, qui a fait le disque The Vox avec Eric Lenini, qui finalement ne pouvait plus faire des concerts parce qu'elle avait un tournée avec Rufus Wainwright aux États-Unis. Et donc du coup, il m'a contacté en me disant, est-ce que ça te dit de finir la tournée? On avait 6 ou 7 dates, et finalement la tournée a continué pour un autre un an et demi, et puis on a enregistré un disque ensemble avec Eric qu'on a retourné aussi pour un an et demi. Donc oui, c'était décisif, c'est sûr.
Alors, il y a un autre disque dont je vais vous parler. C'est, en fait, c'est plus qu'un disque, c'est un projet. C'est celui qui s'appelle Autour de Chet, dans lequel vous interprétez Born to be Blue. Et c'est une version très, très différente, qui n'a rien à voir avec Chet Baker.
Bah, peut-être, mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce disque, j'étais assez content, très content même d'être invité, parce que c'est Clément Ducol qui fait les arrangements.
Vous aviez déjà rencontré Eric Truffaz?
J'avais jamais rencontré, je l'avais vu en concert plusieurs fois, mais je l'avais jamais rencontré. Et en fait, il m'avait dit que quand il devait choisir avec qui il voulait chanter, moi j'étais parmi des gens avec lesquels il voulait chanter, jouer. Parce que peut-être je viens d'un autre univers, peut-être un univers plus rock, et lui, c'est ce qu'il voulait ramener dans la chanson. Et heureusement, c'est aussi ce que Clément Ducol, qui a fait les arrangements, a ramené dans le morceau. Parce que moi, je suis arrivé au studio le soir avant d'enregistrer la chanson. Ils avaient déjà une journée de répétition. Il dit, tiens, je vais te faire écouter un truc. C'est la répétition, c'est l'arrangement qu'on a trouvé ensemble. Avec Cyril Atef à la batterie, avec Brian Z au piano, donc vraiment une fine équipe.
Oui. Ouais.
Et ils ont trouvé un truc avec les pianos préparés, avec les harpes préparées, qui fait penser un peu au Tom Waits de l'époque de Rain Dogs, cet album fabuleux qu'il était sorti en 82, je crois, ou 3.
Et c'est là que votre interprétation de Born to be Blue se termine par un véritable cri.
Bah oui, parce que quelque part, c'est aussi par rapport à au vie de Chet, parce que c'est quand même, quand on l'entend chanter ou jouer, il jouait toujours des ballades, il jouait toujours les trucs très sentimentaux, alors que sa vie en même temps était assez déchirée, quoi. Donc si vous voulez, c'était un peu une, je me mettais un peu dans sa, en tout cas je l'audace de me peut-être mettre un peu dans sa tête, en se disant mais comment est-ce que tu te sens quand tu es assailli de partout et quand tu es quand même tu reçois beaucoup d'éloges partout, mais tu as quand même tes démons qui te finissent par te ramener par terre. Donc du coup, c'était aussi par rapport à ça, mais c'était aussi par rapport à la musique et cette voix gutturale qui est Tom Waits, dont je suis très grand fan, dont j'ai essayé de faire un peu semblant, quoi.
Ah, ça donne une version tout à fait surprenante. Et puis Eric Truffaz, je recommande d'ailleurs, il faut dire aux auditeurs que le disque Autour de Chet, et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une série de duos en fait entre un chanteur et un trompettiste, et il y a plusieurs trompettistes dont Eric Truffaz, et Eric Truffaz est absolument emballé, et il y a un DVD qui est joint au disque, et dans le DVD il y a une interview de vous, Hugh Cotman, mais aussi il y a un moment qui est saisi de l'enregistrement lui-même. Et Truffaz est emballé.
Bah, l'enregistrement était fabuleux, parce que déjà qu'une grande label comme Universal ou Blue Note se lance dans un projet avec tant de musiciens d'une telle façon, parce que la plupart du disque était fait en live.
Oui.
Et sans casque, donc c'est-à-dire normalement quand on enregistre une voix, on est dans une cabine à part pour que notre micro-voix ne prend pas trop des instruments, pour qu'on puisse après travailler dans le mix, ou s'il faut refaire quelque chose, pour le refaire. Là, c'était impossible. Là, c'était 1, 2, 3, 4, on commence la chanson, et s'il y a un problème avec qui que ce soit, bah, on est obligé, tout le monde, de redémarrer à zéro. Donc ça ramène une certaine pression que moi, je, personnellement, c'est un truc qui me plaît. C'est comme ça aussi que j'avais fait mon disque. Et il y a Camélia Jordana, par exemple, une chanteuse qu'on connaît plutôt du monde de musique actuelle ou pop, qui était fabuleuse, quoi. C'est-à-dire, elle a fait un duo piano-voix avec Brian Z à 23h du soir.
Oui.
Donc, ils ont fait quelques prises, ça a duré jusqu'à 2h du matin. Et juste, elle a pas du tout froid aux yeux de... Elle qui a connu que cette époque d'enregistrement avec un ordinateur, avec 10 000 possibilités tout le temps, c'était fabuleux, quoi. Et la version de Pierce Ficini aussi est vraiment très réussie, je trouve.
Mais je trouve que le disque, effectivement, est très... Les trompettistes sont formidables, mais les voix des chanteurs sont... C'est plus inégal de mon point de vue. Vous êtes sûrement une des plus réussies. D'ailleurs, au passage, c'est le Jazz Magazine dit il est de ceux qui, bien rares, qui peuvent encore activer le phénomène de chair de poule.
Vous avez vu ça? J'étais content. Parce que franchement, ce critique-là était pour mon disque.
Oui.
Et comme je venais de faire deux albums, on va dire, quand même plutôt pop, je me suis dit, soit cet album, ça va être descendu par la presse jazz en disant encore un autre chanteur pop qui se veut crooner, ou par les presses de musique actuelle en disant bon, il a plus des idées, donc il fait une reprise de chansons de jazz, quoi. Et heureusement, j'ai eu ni l'un ni l'autre, mais surtout j'étais très content quand j'avais lu ça. J'ai soufflé un sigh of relief, comme on dit chez moi.
J'avais une dernière question, parce que je crois que vous devez aller à une showcase, et puis vous avez d'autres questions qui vous sont posées. Oui, en matière de projet, je me suis demandé, ça vous dirait rien de chanter les chansons de Ray Charles ?
Je suis assez fan de Ray Charles. C'est vrai que pour l'instant, je bosse sur les compositions, parce que mon disque autour de Nacking Cole, le disque Chet, et entre-temps, parce que ce que j'ai omis de vous dire, est que le groupe The Hawks, même si on ne sort pas souvent des albums, parce qu'il y a deux membres aux États-Unis, moi je suis ici, et deux membres d'Angleterre, et on est vraiment, pour le coup, totalement indépendants. On a quand même sorti un disque il y a deux ans autour de B.B. King. Donc ça fait trois disques en trois ans, hommage. À un moment, il faut que je revienne sur la composition, ce que je fais en ce moment. Donc, je ne sais pas, peut-être plus tard.
Mais vous avez un autre projet ?
Je suis en train de bosser sur mon prochain disque, qui serait plutôt la composition.
Des compositions originales ?
Ouais.
Merci beaucoup, Yoko Otman, et bon concert.
Merci.